Chapitre 33. Dante gara la voiture de location en face de la carrosserie automobile. La radio branchée sur une station hip-hop des années 1990 diffusait « My mind playing tricks on me » des Ghetto Boys, et les basses tournées à plein volume faisaient trembler les vitres. Il porta à ses lèvres la bouteille de bourbon la moins chère qu'il avait pu trouver et but une dernière gorgée. Il sortit ensuite un flacon de comprimé de sa poche, en écrasa quelques-uns et les sniffa. Enfin, il ouvrit la boîte à gants et en sortit un Desert Eagle. L'arme, massive, aurait pu avoir sa place sur une tourelle de tank. Il l'avait empruntée à Tug, qui, sur le moment, était trop préoccupé par sa copine Reynel pour poser la moindre question. De sorte que, quand Dante lui avait demandé de lui montrer son pistolet, Tug lui avait tendu sans plus d'émotion que s'il s'était agi d'une manette de console.
« Faut que j'aille voir un mec pour un truc », avait prétexté Dante.
« Ça roule », avait répondu Tug, sans lever les yeux de son écran de téléphone. Il attendait des nouvelles de l'hôpital. Dante s'était levé, et après avoir glissé le pistolet à sa ceinture, il s'était dirigé vers la porte.
« Hey, Tug, merci pour tout, mec. »«
Ouais, à plus. »«
Encore merci », avait répété Dante.
Puis, il était sorti en fredonnant « What about your friends » des TLC. La carrosserie automobile qu'on lui avait indiquée se trouvait en périphérie ouest de Jefferson Run. Il suffisait de suivre la route sur 2 kilomètres supplémentaires pour pénétrer dans le comté de Chesterfield. Tout comme il suffisait de franchir le pont côté est pour se retrouver dans le comté de Warren. Dante observa la rue, qui se transformait quelques mètres plus loin en une longue bande d'asphalte qui s'enfonçait dans la campagne. La démarcation était assez nette, avec l'apparition soudaine des arbres en remplacement des réverbères. Quelques ampoules étaient d'ailleurs allumées au sommet des mâts, mais leur halo faisait pâle figure à côté de la pleine lune. Dante but une autre gorgée de mauvais bourbon qui lui chatouilla la poitrine. Quand il était enfant et qu'il passait sa vie sur son vélo, le dernier réverbère de cette partie de la ville marquait la limite de son terrain de jeu. Sa mère lui avait défendu de le dépasser. D'après elle, la route côté Chesterfield était trop dangereuse. Si on lui avait dit qu'à 34 ans, il serait toujours prisonnier des frontières de Jefferson Run. La radio diffusait à présent un vieux tube de R&B, All Time's Sake, de Sweet Sable, qui faisait partie de la bande originale du film Above the Rim. The Old Times. Le bon vieux temps. Le temps d'avant. Le temps qui ne lui faisait pas faire de cauchemars. Il sortit de sa poche un vieux cliché pris avec un Kodak jetable. À l'époque, Keith Carruthers avait dû dépenser au moins $1000 dans ses appareils bon marché pour immortaliser la construction du crématorium. Dante approcha l'image de son visage. Une photo de famille prise à la sortie de la messe. Rome et lui portaient une cravate à clip, et Nevea était très mignonne, avec son double chignon afro et sa petite robe jaune. Leur père se tenait derrière leur mère, une main posée sur son épaule. Bonita était sublime. Elle caressait distraitement la main de son mari et arborait à l'annulaire la bague en forme de cœur qu'il lui avait offerte. Le diamant était minuscule, mais la luminosité ce jour-là devait être exceptionnelle, car même sur papier glacé, il brillait de 1000 feux. Dante faisait la grimace. Rome avait déjà l'air grave, et Nevea avait la tête tournée vers la droite. Il ne se rappelait pas pourquoi. Il remit la photo dans sa poche, chambra une balle dans le Desert Eagle et prit plusieurs longues inspirations.
« Je suis désolé de ne pas avoir été à la hauteur, Cassidy »,
déclara-t-il à voix haute. Il sortit de la voiture.
« Je t'attends, Ernesto !» hurla-t-il. « Allez, sors de ton trou, connard !»
Sa voix résonna dans la rue plongée dans le silence, pour se dissiper en atteignant les arbres du comté de Chesterfield. Le dernier lampadaire s'éteignit, alors qu'un crépitement de coups de feu déchirait la nuit. Roman gara la Challenger à côté de la BMW de Torrent. Comme convenu, il s'était retrouvé au Trouts avant de se rendre en cortège dans le Skids. Il descendit de la voiture et boutonna sa veste. La journée avait été fraîche. Désormais, il faisait froid. Il y avait des réverbères autour de l'entrepôt, mais les ampoules avaient grillé des années plus tôt et personne n'avait jugé nécessaire de les remplacer. À la lueur de la lune, la rue et ses alentours semblaient nimbés d'un halo violet. Roman attendit que Torrent et Tranquil sortent de leur voiture. D-Train, Tank, Corey et les jumeaux Bang Bang étaient venus à bord de la Mercury Marquis de D-Train et patientaient déjà sur le trottoir. Enfin, Torrent et Tranquil les rejoignirent. « Y a de la lumière dans ce machin ?» demanda Torrent. « Ouais, cet entrepôt est la prochaine structure à devoir tomber. Mais ils n'ont pas encore coupé l'électricité, » répondit Roman. « J'ai récupéré la clé auprès de l'équipe de démolition et je suis passé jeter un coup d'œil tout à l'heure. Bon, on entre et on attend Carlos et Ernesto ?»« T'as raison, faisons ça. » »« Acquiesça Tranquil. » Roman ne laissa rien paraître de son inquiétude, mais il avait cru percevoir de l'ironie dans le ton du gangster. Se pouvait-il que ce psychopathe soit capable de sarcasme? Il déverrouilla la porte de l'entrepôt, se glissa à l'intérieur et d'une main tâta le mur pour trouver l'interrupteur et l'actionner. Un tiers des néons s'allumèrent dans leur cage grillagée, projetant leur lueur blafarde sur l'immense espace caverneux. Comme les seules fenêtres se trouvaient à l'arrière de la bâtisse et donnaient sur un autre entrepôt abandonné, il y avait très peu de risques que quiconque à l'extérieur remarque leur présence. Torrent et Tranquil entrèrent à leur tour, suivis du reste de leur bande. Roman s'adossa à une pile de palettes. À chaque respiration, un petit nuage de vapeur blanche s'échappait de ses lèvres. D-Train fut le dernier à franchir la porte, qu'il referma derrière lui avant de rejoindre Torrent et Tranquil. C'est à cet instant que Roman se rendit compte qu'il était seul d'un côté, face au reste des Bibibi. Entre eux et lui, quelques monceaux de débris et de déchets. Pas de quoi s'abriter en cas de fusillade, songea-t-il. T'as dit que Carlos et Ernesto étaient censés arriver à quelle heure déjà ? Demanda Torrent. À 21h, donc d'ici une demi-heure. Roman espérait que Chauncey avait eu le temps de se cacher derrière le fatras de sacs en toile de jute dans le fond de la bâtisse, ou derrière une des machines rouillées qui prenait la poussière le long du mur. En tout cas, tant qu'il était là, les choses devraient bien se passer. En théorie. Torrent s'éclaircit la voix. « Tu sais très bien que je t'ai jamais fait confiance. Mais je commençais à t'apprécier. Je me disais même que t'étais un mec bien pour Jay. Au final, t'es juste un putain d'intello qui s'est cru plus malin que moi. » Hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? Torrent lui adressa un clin d'œil. C'est bon, Chauncey, appela-t-il. Tu peux sortir. Roman ouvrit grand la bouche en regardant le policier émerger de la pénombre, les mains dans les poches. Aucun micro, aucune caméra, rien. Chauncey lui décocha un grand sourire et vint se placer à côté d'Ibibibi. On avait un accord, espèce d'enfoiré ! S'écria Roman. J'en ai passé un meilleur avec Torrent. Rien de personnel ? Enfin si, un peu. Ta sœur a foutu ma vie en l'air. Elle a tout raconté à ma femme. Résultat, j'ai plus le droit de voir mes gamins ni de mettre les pieds dans la baraque que j'ai payée. Donc, quand on en aura fini ici, je pense que ces messieurs vont lui rendre une petite visite. Roman prit sur lui pour ne pas dégainer son pistolet et loger sur le champ une balle dans la tête de Chauncey. Il est venu me voir au Kingdom après ton départ, expliqua Torrent. On a discuté et on a trouvé un terrain d'entente. Depuis quelques jours, il est suspendu à cause d'une enquête interne pour harcèlement sexuel. Apparemment, ta sœur n'était pas la seule nana qui se tapait. Et il est tombé sur une contractuelle un peu farouche. Pas vrai, Chauncey ? Le policier resta silencieux. « Il a proposé de nous aider à te faire porter le chapeau pour pas mal de trucs, » poursuivit Torrent. « Comme ça, lui, il récupère son badge, et nous, on récupère un contact chez les flics. »« Attends, tu vas me tuer sans demander la permission à Shade ?» demanda Roman, la voix tremblante. « Je te rappelle que t'es pas le seul à qui je fais gagner du pognon. »« C'est moi qui gère ici, pas lui. »« Je lui expliquerai ce qui s'est passé, il s'en remettra. » Surtout quand il saura que t'étais sur le point de nous balancer. Je t'avais prévenu, l'intello. T'es pas plus malin que moi. Mais t'as pas voulu m'écouter et t'en as fait qu'à ta tête. Alors tant pis pour toi. comme disait ma mère. Tête de bois, coup sur les doigts. Allez, dit Train, bute-moi ce bouffon. Roman n'était aucunement surpris par ce dernier ordre. Le chef des BBB avait beau s'être mis Chauncey dans la poche, il n'allait pas non plus prendre le risque de commettre un meurtre devant un flic. Ni laisser son frère s'en charger, même si Roman pouvait voir que Tranquille en mourait d'envie. D-Train pointa son pistolet vers Roman. Roman le regarda droit dans les yeux. Tank, Corey et les jumeaux Bang Bang dégainèrent eux aussi leur calibre. « Faites beau rêve, connard !» lâcha Torrent. Roman baissa la tête. « C'est bon, » murmura-t-il. « Je suis prêt. Allez-y. » Comme d'un seul homme, D-Train, Tank, Corey et les jumeaux Bang Bang se retournèrent et braquèrent leurs armes sur Torrent et Tranquille. Il y eut un instant de flottement avant que Torrent réalise ce qui se passait. À la stupeur, succéda rapidement la rage.
« Vous faites quoi, là ? » cracha-t-il.
Le sourire de Chauncey disparut, tel un fantôme aux premières lueurs de l'aube. Tranquille n'eut pas le temps de sortir son pistolet de sa ceinture que Lucius lui plaqua le sien contre la tempe. « D-Train, combien d'argent j'ai versé sur ton compte en banque ?» demanda Roman. « 100 000 $. Et tu m'as aidé à ouvrir un livret d'épargne retraite. » « Corey ?» 70 000 $, plus je sais plus combien avec ma mère sur un truc de fonds mutuels ou je sais pas quoi. Tank? Tu m'as fait croquer sur ton deal avec Shade. Maintenant, j'ai assez de fric pour payer les études de ma nièce à Prosser State. Nous aussi, on a placé du fric sur un fonds mutuel et on va pouvoir s'acheter un bar à Richmond, avec Levon, ajouta Lucius. Bref. Entre le plan de Shade et le projet de revitalisation du Skids, on va pouvoir se gaver pendant très, très longtemps. Résuma Roman d'une voix tranquille. Fini les pump and dump. Fini de jouer à cache-cache avec le fisc. Et surtout, fini de bouffer tes miettes.
Alors c'est comme ça ? S'écria Torrent. Comme ça que vous me remerciez après tout ce que j'ai fait pour vous, bande d'enfoirés ? Et toi, l'intello ? Tu crois que Shade va te laisser faire ? Tu sais pas à qui t'as affaire, abruti.
Te fatigue pas, Terence. Il a déjà obtenu sa permission. Devina Tranquille. Torrent se tourna vers son frère et il comprit que celui-ci avait raison. Il reporta son attention sur Roman. Il m'a dit que tant que c'était fait proprement, j'avais son feu vert, confirma Roman. Il s'avança d'un pas vers le gangster.
Tu as essayé de tuer mon père. « Dit-il. Mon frère, moi, tu m'as forcé à m'abaisser à ton niveau, à nager dans la fange avec toi, au point que je ne sais pas si j'arriverai un jour à me sentir propre. Mais ce soir, on règle nos comptes. Ce soir, on éponge les dettes. « Regarde ce que t'as fait à ma main, enfoiré !» s'exclama Corey. « T'as demandé à ton frangin de me fracasser le crâne à coups de crosse parce que j'avais renversé un verre !» renchérit Tank.
T'aurais pas dû buter Eddie, ajouta D-Train, les yeux rivés sur le pistolet qu'il tenait à la main.
C'était un gosse. Il méritait pas ça. Plein le cul de vos jérémiades,
gronda soudain Tranquille, et il saisit le 45 qu'il avait à la ceinture. Il n'eut pas le temps de faire feu que Lucius appuya sur la détente, aussitôt imité par tous les autres. Le concert dissonant des détonations résonna dans l'entrepôt désaffecté. Les frères Gilchrist tombèrent ensemble, Torrent étendu sur son cadet. Jusqu'au bout, il avait cherché à le protéger. Tranquille était désormais aussi silencieux que son surnom le laissait présager. Mais Torrent bougeait encore. Il toussa et du sang s'échappa de ses lèvres écartées pour couler sur son menton.
« Bande d'enfoirés !» souffla-t-il.
Roman s'avança jusqu'à lui. Glissa la main sous sa veste et en tira le pistolet de son père. « On n'imprimera jamais ton portrait sur un t-shirt, » dit-il. « Personne ne saura que tu es mort avant très longtemps. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de veillée funèbre. Les rares personnes qui t'aimaient te pleureront peut-être, mais elles s'en remettront vite, parce qu'elles ne t'appréciaient pas. » Il pointa le canon vers la tête de Torrent.
« Mais, chien, qu'est-ce qui va leur arriver ?»
parvint à articuler le mourant. « Ça ne te concerne plus, » répondit Roman. Il déglutit. « Pour être roi, il faut à la fois penser comme un roi et agir comme un roi », lui avait expliqué son père lorsqu'il lui apprenait à jouer aux échecs. Roman appuya sur la détente. La joue de Torrent explosa et le gangster ne bougea plus. Chauncey leva les mains.
« Écoute, Roman, on peut s'arranger !» gémit le policier. « Tu vas quand même pas tuer un flic ! Pas avec cette arme ! C'est à quoi est-ce qu'on remonte jusqu'à toi ?»«
T'as raison. Je peux pas te tuer avec cette arme. » Roman tendit l'index vers le plafond, puis l'orienta vers Chauncey. Une balle aussi silencieuse qu'une tombe traversa une des fenêtres de l'entrepôt, fendit l'air poussiéreux et pénétra dans le crâne de Chauncey à 900 mètres par seconde. Le policier s'écroula comme un pantin désarticulé.
« Qui c'est qui a fait ça ?»
demanda Dittrain, sidéré. « Mon agent d'assurance, » répondit tranquillement Roman.
« Bon, chargeons les corps dans la voiture. Lucius récupère les billets qu'il y a dans le coffre de la Challenger, trouve la bagnole de Chauncey et disperse le fric dedans avec quelques sachets de coke.
Ça marche. Dittrain, assure-toi que les pitbulls trouvent chacun une famille d'accueil. Je veux que tu t'en occupes personnellement. Ne les confie pas à un refuge, d'accord ?
Pas de problème.
Merci, maman, pensa Roman. Merci de nous avoir protégés. Le temps de tout ranger et de tout nettoyer, il était minuit. En arrivant à la maison, Roman constata que la voiture de location n'était pas là. Dante avait encore dû ignorer ses avertissements et aller se boire un verre quelque part, soit voir son copain Tug. Nevea étant au vignoble, Roman avait la maison pour lui tout seul. Il entra, prit une bouteille d'eau dans le réfrigérateur et se laissa tomber sur le canapé. Il envisagea un instant d'appeler Jealousy avant de se raviser. Il sentait qu'elle avait besoin de plus de temps. Il alluma la télévision et se mit à zapper jusqu'à tomber sur une chaîne de dessins animés. Son cerveau avait besoin d'un contenu simple et facile à digérer. Il vida la bouteille d'eau et pencha la tête en arrière. Il était sur le point de s'assoupir quand son téléphone sonna. Il regarda l'écran, un numéro de Virginie qu'il ne connaissait pas. Qui pouvait bien l'appeler à une heure pareille ? Il pensa alors à Nevea et décrocha. « Allô ?
Vous êtes bien Monsieur Roman Carruthers ?»
demanda une voix très officielle.
« Oui ?»«
Monsieur Carruthers, je suis désolé de vous appeler aussi tard. J'appartiens au département de médecine légale. »«
Qu'est-ce qui... Pourquoi vous m'appelez ?»
Un silence.
Je suis vraiment navré, mais nous avons ici le corps de votre frère. Nous avons retrouvé dans son portefeuille un document indiquant que vous étiez la personne à contacter en cas d'urgence. Je suis désolé, mais nous avons besoin que vous veniez l'identifier.
Nevea sentit une vibration dans son dos, comprit qu'elle s'était endormie sur son téléphone et regretta de ne pas l'avoir mis en mode avion. Elle attrapa l'appareil, vit que c'était Roman et s'apprêtait à ignorer l'appel, quand elle vit qu'il était 4 heures du matin.
« Qu'est-ce que tu veux ? »
demanda-t-elle.
« Rentre à la maison. Il faut que tu rentres à la maison. »
Sa voix était étrange, comme s'il était loin du micro.
« Pourquoi ? C'est papa ?»
Elle travaillait dans le domaine de la mort depuis suffisamment longtemps pour savoir qu'après une certaine heure, un appel ne pouvait vouloir dire qu'une chose.
« Non, mais rentre à la maison, s'il te plaît. »
insista Roman. Un trou de la taille du monde s'ouvrit dans le ventre de Nevea.
« Je pars tout de suite. »
Roman l'attendait, assis sur la première marche du perron. Il avait la tête dans les mains et semblait fixer les graviers de l'allée.
« Qu'est-ce qu'il y a, Rome ?» demanda Nevea. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»
Il leva la tête. Il était en larmes.
« Ils l'ont tué !»
sanglota-t-il.
Ils l'ont tué. Quoi ? Qui ça ?
Le trou dans le ventre de Nevea s'élargit encore, car elle savait très bien de qui il parlait. Mais tant qu'elle n'avait pas entendu son nom, son cerveau refusait encore de l'admettre.
Dante. Il est mort, Nevea.
Et ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre, pour une étreinte que seuls ceux qui ont perdu un frère ou une sœur peuvent comprendre. Jealousy regarda son téléphone. Il était 6 heures du matin et quelqu'un tambourinait à sa porte. Elle traversa l'appartement, jeta un œil par le judas et quand elle vit que c'était Roman, elle décida de ne pas ouvrir.
« Va-t'en !» dit-elle. « Je veux plus te parler. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. »
« Ils ont tué mon frère !»
Jealousy eut le souffle coupé. Elle tira le battant et Roman était là, devant elle, les yeux rougis, les vêtements froissés.
« Qu'est-ce que tu as dit ?»«
Ils l'ont tué !»
murmura Roman. Jealousy l'attrapa par le bras, le tira à l'intérieur de l'appartement et referma la porte. Roman l'étreignit brutalement et ils s'effondrèrent tous les deux au sol. Il tremblait, il pleurait. Il parlait dans son cou.
« Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ? Ils l'ont tué, Jay. Ils l'ont criblé de balles. J'ai dû aller le voir à la morgue. Ils l'ont massacré. Ils ont massacré mon petit frère. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Qu'est-ce que je fais, Jay ? Je suis perdu. Oh, mon chéri, je suis désolé. Reste là avec moi. C'est tout ce que t'as à faire. Chut, je suis là, je suis là. »
Dehors, des nuages gris encombraient le ciel et semblaient vouloir empêcher le soleil de se lever. Jealousy serrait Roman contre elle et Roman pleurait, pleurait, ses larmes plus denses encore que la pluie qui s'était mise à tomber. Nevea était ivre. Quand Roman était parti sans lui dire où il allait, elle s'était aussitôt précipitée dans le cabanon de jardin pour récupérer un bocal d'alcool artisanal dans la réserve personnelle de son père. Assise à la table de la cuisine, elle but une longue gorgée et sentit le liquide lui brûler la gorge et le ventre. La maison lui paraissait vide, tellement vide, comme si la ville avait déserté à jamais. Dante était mort. Ces mots n'avaient aucun sens. Elle voulut se lever, mais le bocal lui échappa des mains et éclata sur le carrelage, inondant son pantalon d'alcool de maïs et d'éclats de verre. Nevea observa quelques instants le désastre, et soudain, quelque chose en elle se fissura. Elle tapa des deux poings sur la table et envoya valdinguer la coupe de fruits qui se trouvait au centre. Elle se mit à crier, à hurler, à rugir. Elle s'avança vers l'évier et donna un grand coup dans l'égouttoir. Les assiettes et les verres se brisèrent au sol en 1000 morceaux. Elle se retourna, folle de rage, et tomba nez à nez avec le pot à cookies en forme d'ours au sommet du réfrigérateur. Quand ils étaient enfants, chaque fois qu'ils voulaient voler un gâteau, ils disaient en riant qu'ils allaient décapiter l'ours. Puis leur mère avait disparu, et il n'avait plus jamais été question de décapiter quoi que ce soit. Elle ne comprenait même pas pourquoi son père avait gardé cette abomination. Nevea se hissa sur la pointe des pieds, attrapa l'ours en porcelaine et le brandit au-dessus de sa tête.
« Va te faire foutre !»
hurla-t-elle. Et elle fracassa le pot à cookies par terre. Elle s'attendait à ce qu'il soit vide. Il ne l'était pas. Elle observa le contenu qui s'était répandu sur le carrelage et comprit instantanément de quoi il s'agissait. Il faut dire qu'en la matière, elle avait des années d'expérience. Une poudre qui pouvait passer pour du sable, du ciment, voire de la litière pour chat. Sauf qu'elle savait que ce n'était pas ça. Nevea tomba à genoux et, ignorant les éclats de porcelaine tranchants comme des rasoirs, elle passa les mains dans les cendres. L'équivalent d'un corps adulte après crémation. Ses doigts engourdis tombèrent sur un morceau de métal tordu. Elle le ramassa, l'observa à la lumière. L'objet formait une espèce de point d'interrogation. À la base, il y avait un cœur noirci par les flammes.